Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de vie, s'il y a un pays qui fait fantasmer, c'est bien la Corée du Nord. Vous savez, ce petit pays qui est coincé entre la Chine, la Russie et le sud de la péninsule de Corée, occupé par la République de Corée. La Corée du Nord, République populaire démocratique de Corée, c'est ce pays dirigé par un gros poupon, à la chevelure bien dégagée sur les oreilles, et qui jubile en voyant partir en direction du Japon et de Los Angeles ses ICBM, devant un parterre de généraux dont les casquettes sont plus hautes que celles de l'armée rouge, et qui applaudissent comme des clones. Mais c'est peut-être autre chose, et c'est de cela que va nous parler Alain, qui a la chance de connaître ce pays, puisqu'il y est allé plusieurs fois. Alain, merci d'avoir accepté notre invitation, et pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez été amené à visiter la Corée du Nord ?
Bonjour et merci de votre invitation. Je me suis effectivement rendu à trois reprises en Corée du Nord. Une première fois en 2012, par curiosité, je dirais, pour visiter un pays que peu de gens visitent, effectivement. Donc j'ai fait appel à une agence de voyage qui a bien voulu m'organiser un voyage, effectivement. Et donc, je suis parti dans ce pays. J'étais seul, puisque, comme l'agence de voyage me l'avait indiqué, le tourisme de masse n'existe pas en Corée du Nord. Donc, je me suis retrouvé là-bas seul avec deux guides et un chauffeur, et j'ai pu, pendant une douzaine de jours, visiter ce pays. J'en ai retiré des impressions qui était fort différente de ce que j'avais pu lire ou entendre en France. Donc je me suis intéressé d'un petit peu plus près à ce pays. À mon retour, j'ai pris contact avec une association, l'Association d'amitié franco-coréenne, et je suis retourné avec eux dans ce pays en 2014. Et j'y suis revenu donc en 2018, début septembre, donc c'est tout récent, cette dernière visite en 2018 s'inscrivant dans le cadre du 70e anniversaire de la création de la République populaire démocratique de Corée.
Alors ces voyages, vous les avez faits par curiosité, nous avez-vous dit, mais est-ce que vous les avez faits aussi par sympathie idéologique, étant donné qu'on a là affaire au dernier régime stalinien, autoritaire de la planète?
Alors, lorsqu'on parle de régime stalinien, à mon avis, c'est quand même un abus de langage par rapport à la Corée du Nord. Par rapport, moi, à mes convictions, qu'il existe un État socialiste sur la planète ne me déplaît pas forcément. Après, effectivement, il ne s'agit pas de se cacher des choses ou de masquer quoi que ce soit. C'est effectivement un régime autoritaire, dirigé donc par ce qu'on peut appeler une dynastie, puisque le dirigeant actuel, Kim Jong-un, est le petit-fils de Kim Il-sung et le fils de Kim Jong-il, qui, avant lui, ont dirigé le pays depuis sa création en 1948.
Alors, ce rappel était utile, mais est-ce que vous avez vu une évolution du pays, et qu'est-ce qui vous a frappé, en tout cas, la première fois? Est-ce que vous avez vu l'état de dénuement des populations, ou en tout cas de certaines populations? Est-ce que vous avez vu le militarisme à outrance? Est-ce que vous avez vu appliquer les trois principes du Juche qui se dirige le pays depuis le début des années 70, à savoir autarcie, sacrifice et discipline?
Alors, justement, donc, avant de me rendre pour la première fois en Corée du Nord, j'avais lu, j'avais écouté, j'avais... Et je m'attendais là-bas à trouver un pays à genoux, avec des gens extrêmement tristes, sous le joug du pouvoir politique. Or, mon impression, justement, a été différente. Et donc j'y ai vu des gens qui se promenaient calmement, qui souriaient, pas tous, mais enfin un certain nombre, qui riaient, qui discutaient. Donc ça, c'est ce qui m'a frappé, je dirais, c'est cette différence entre ce que j'avais pu lire et ce que je voyais. Alors, il est clair qu'on ne m'a pas amené partout, ça c'est sûr que dans ce pays on ne va pas partout, et que ce n'est qu'une impression visuelle, mais malgré tout, quand même, ça faisait un contraste avec ce que j'avais pu lire auparavant. Alors, les idées du Juche, oui, qui peuvent se résumer très, très grossièrement à « le peuple décide de son destin, est maître de son destin », bon, ça, moi, je n'ai pas eu l'occasion, lors de mes visites, de le vérifier vraiment.
Mais, malgré tout, la Corée du Nord reste un pays, reste le pays qui dépense, je crois, il partage avec le sultanat d'Oman le privilège d'avoir les dépenses militaires les plus fortes par rapport à son produit intérieur brut, ça tourne autour du quart du PIB, et puis il y a quand même 40% de la population qui, de près ou de loin, soit comme militaire actif, soit dans la réserve, sont rattachés à l'armée, dépendent de l'armée.
Tout à fait. Et c'est vrai que lorsqu'on se promène en Corée du Nord, l'armée est extrêmement présente. On voit très fréquemment des militaires, on voit dans la capitale, Pyongyang par exemple, à un moment donné, des camions entiers transportant des militaires. Alors le service militaire est de 7 ans en Corée du Nord. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que par rapport à ce qui peut se passer en Occident, c'est une armée qui certes a des périodes militaires bien évidemment, mais qui participe aussi à beaucoup d'autres tâches. On voit des militaires construire des maisons, on voit des militaires garder des chèvres, travailler dans les champs. Voilà, donc c'est multi-activité si je puis dire.
C'est-à-dire que bon, on a affaire à une armée dite populaire et qui donc assume des tâches et fait des affaires, comme on le voit encore par exemple au Vietnam, et en particulier dans le nord du Vietnam, ou peut-être aussi en Chine.
Tout à fait, c'est effectivement une armée dite populaire qui ne ressemble pas, ou de loin disons, à une armée occidentale. Oui.
Malgré tout, avec ses dépenses militaires extrêmement importantes, dans un pays qui n'est pas excessivement riche, puisque je rappellerai que c'est un pays qui fait 120 000 km², c'est-à-dire un petit peu plus du cinquième de la France, et puis qui abrite 25 millions d'habitants à l'heure actuelle. Alors que la Corée du Sud arrive à peine à 90 000 km² et a une population deux fois supérieure à celle de la Corée du Nord. Donc, est-ce que cette orientation militaire, qui se manifeste d'une manière éclatante aussi par des essais de toutes sortes, ne retentit pas sur le bien-être de la population en général ?
Alors, c'est un petit peu difficile à dire. C'est sûr que le niveau de vie de la Corée du Nord n'est pas très élevé si on compare aux standards occidentaux. Est-ce que c'est le poids de l'armée qui pèse sur l'ensemble de la population ? Oui, c'est possible. C'est aussi un pays où il n'y a pas ou très très peu de circulation d'argent. Donc, c'est un pays qu'il est difficile de comparer à un pays occidental, parce que tout tourne comme dans les pays socialistes qu'on a pu connaître, l'URSS ou les démocraties populaires, tout tourne autour de l'entreprise, et c'est l'entreprise qui fournit la nourriture, qui fournit les vêtements, même si les ouvriers ou les employés nord-coréens gagnent un peu d'argent et peuvent un peu plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, acheter des produits. Je pense notamment aux femmes qui s'habillent de façon moins uniforme que ne serait-ce qu'il y a 6 ans lorsque j'y suis allé pour la première fois. Ceci dit, les circulations d'argent sont très très faibles, quoi, en fait. Hein. Il n'y a pas de... Dans les villes où on doit aucun établissement bancaire, il n'y a aucun distributeur d'argent. D'ailleurs, nous n'avons... En tant qu'étranger, on n'a pas le droit d'avoir de la monnaie locale.
Alors, ben ça se comprend si on part du principe que les besoins élémentaires, c'est-à-dire le logement, la nourriture, l'éducation, la santé, l'alimentation, sont pratiquement fournis par l'État. Mais malgré tout, d'abord en matière de produit national brut par tête d'habitant, en parité de pouvoir d'achat, la Corée du Nord est quand même un pays où il y a le PNB par tête, c'est moins de 2 000 $, alors que la Corée du Sud voisine, ça tourne autour de 38, 37 ou 38 000 $ aux dernières nouvelles. Donc là, il y a quand même un abîme assez sérieux. D'autre part, il y a des indicateurs officiels hein, fournis par la Banque mondiale. Évidemment, il y a beaucoup de domaines où il n'y a pas de données, mais il y a une donnée quand même qui m'a fait un petit peu peur, moi, c'est le taux de rachitisme parmi les enfants de moins de 5 ans, plus de la moitié, alors qu'en Corée du Sud, c'est 2 fois moins.
Oui, alors la Corée du Nord a subi une famine extrêmement dure, violente, dans les années 90, dû essentiellement à la chute de l'URSS qui commerçait à des conditions très avantageuses, enfin pour les Coréens, du moins avec la Corée du Nord. Donc cette famine a duré pratiquement 10 ans, hein, ne s'est achevée qu'en fin des années 90. Aujourd'hui, on peut dire que la Corée du Nord est à peu près en autosuffisance alimentaire, c'est un petit peu juste. Et puis, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'elle souffre terriblement aujourd'hui d'un embargo hein, décidé par les puissances occidentales, qui effectivement pénalise grandement sa population. Et c'est vrai que l'UNICEF a récemment tiré la sonnette d'alarme en disant que des enfants étaient susceptibles peut-être de mourir de faim si cet embargo continuait à s'exercer. Alors, au niveau de cet embargo, peut-être évoquera-t-on la question un petit peu plus tard, il y a des évolutions en termes politiques actuellement en Corée du Nord, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et notamment dans les campagnes et plus spécifiquement dans la partie nord de la Corée du Nord, subsiste des difficultés importantes.
Malgré le fait que vous ayez fait des voyages là-bas très encadrés, est-ce que vous avez eu un petit aperçu, est-ce que vous avez eu à certains indices senti ces difficultés économiques de la population générale que nous venons d'évoquer ?
Non, je ne peux pas dire ça parce que lorsqu'on... Bon, déjà dans la capitale, Pyongyang, je pense que la question se pose beaucoup moins. Lors de mon premier voyage, je suis allé visiter une coopérative agricole où là, effectivement, on voit un niveau de vie qui est modeste, hein, notamment dans les champs, il n'y a pas de mécanisation, tout se fait à la main, mais c'est aussi un principe qui veut que tout le monde ait un emploi, donc la mécanisation est limitée à ce niveau-là. Moi, honnêtement, je n'ai pas vu de mes yeux des gens en situation de pénurie alimentaire, par exemple. Mais effectivement, je redis qu'on est très encadré en Corée du Nord et que, sans doute, on ne m'a pas amené dans des endroits où pouvait se poser ce type de questions.
Bon, j'imagine qu'on ne vous a pas emmené visiter les camps de rééducation dont l'existence est notoirement connue et où les conditions de vie sont certainement dramatiques puisque, encore une fois, on lit qu'il y a une proportion importante la population de ces camps qui meurt en fait de malnutrition. Est-ce que encore une fois, la pauvreté qui est à la fois une conséquence de l'embargo et une conséquence de cette orientation volontaire, volontariste vers des activités militaires, comportement de pays assiégés, est-ce que ça retentit, on le voit retentir dans le domaine du vêtement, dans le domaine de la circulation automobile, bien entendu. Il y a un taux d'utilisation des mobiles, alors ça touche plutôt au contrôle des médias et de l'information. Un taux d'utilisation qui dépasse les 115% d'utilisation des mobiles par les personnes en Corée du Sud. Et il arrive péniblement à 11% en Corée du Nord ces dernières années.
Alors, il y a des développements importants, effectivement, notamment en termes de circulation automobile. Bon, il n'est pas possible en Corée du Nord pour une personne de posséder une voiture. Ce n'est pas dans les mœurs du régime. Ceci dit, il y a des voitures d'entreprise, il y a des voitures de ministère, et il y a même aujourd'hui des compagnies de taxi, donc à Pyongyang. Voilà, ceci dit, la circulation automobile est très modeste par rapport à nos standards.
Et les taxis qui utilisent quel type de véhicule?
Alors, les véhicules que l'on voit le plus souvent sont des véhicules allemands ou japonais. Moi, je n'ai pas vu une seule voiture française en Corée du Nord. Donc, il y a un peu plus de circulation automobile qu'il y a 6 ans, par exemple, lorsque j'y suis allé pour la première fois. Ceci dit, il y a toujours ces grandes autoroutes complètement désertes. Enfin, désertes. Désertes d'automobiles, parce qu'on y voit des gens marcher à pied, rouler à vélo. On voit aussi des gens balayer l'autoroute avec un balai pour qu'elle soit propre. Il y a beaucoup de routes en terre aussi, notamment pour aller à la campagne, pour aller dans les villages. Mais dans la mesure où les gens n'ont pas de voiture, donc ils n'ont pas forcément besoin de routes goudronnées, ce ne sont que les grands axes qui sont goudronnés, effectivement. Notamment, la route la plus importante est celle qui mène à la zone démilitarisée, la frontière entre les deux Corées.
Est-ce que la Corée du Nord est un beau pays?
Oui, c'est un pays plutôt montagneux, notamment dans ses parties nord, mais on ne va pas visiter la partie nord de la Corée du Nord, mais même dans la partie sud, oui, c'est un pays vallonné, montagneux, qui est plutôt joli. Alors, ce qui pose aussi quand même quelques problèmes, c'est qu'il n'y a qu'un sixième des terres qui sont cultivables en Corée du Nord. Donc ça ne facilite pas non plus le développement de ce pays en termes agricoles.
C'est un pays qui présente les paysages un peu classiques de l'Asie orientale, à savoir des montagnes boisées qui dominent des plaines assez étroites, comme au Japon d'ailleurs, par exemple, ou en Corée du Sud.
Oui, tout à fait. Là, on est dans le même schéma, effectivement.
Est-ce qu'il y a dans ces paysages des vestiges qui sont intéressants d'une histoire qui est quand même malgré tout ancienne, même si la Corée du Nord a été effroyablement ravagée par la guerre de Corée qui s'est déroulée au début des années 50 et qui a fait un nombre impressionnant de victimes. Est-ce qu'il y a quand même un héritage historique de ce passé déjà important?
Oui, alors c'est vrai que la Corée dans son ensemble, la péninsule coréenne, est un pays de grande culture, et notamment on y voit, on y parle du régime de Goryeo, et il y a des vestiges effectivement au centre à peu près de... enfin au centre du... plutôt vers le sud quand même de la Corée du Nord, il y a des vestiges et des tombeaux notamment que j'ai eu l'occasion de visiter malheureusement uniquement à l'extérieur, puisque on ne rentre pas manifestement à l'intérieur des tombeaux.
Et ces vestiges sont impressionnants, sont beaux. Vous qui avez une expérience du Cambodge, comment ça se situe par rapport à quand même à cette merveille qu'est Angkor?
Oui, non, là c'est tout à fait différent. Ça n'a pas du tout l'ampleur d'Angkor ou de ce que l'on peut trouver au Cambodge. C'est beaucoup plus modeste. Ce sont des espèces de tumulus en fait.
Venons maintenant à la vie quotidienne, si vous voulez bien, et aux gens, à leur existence. Les Coréens ont la réputation d'être des gens gays par rapport aux Chinois ou, à plus forte raison, aux Japonais, qui aiment rire, qui aiment l'ail, qui aiment la nourriture épicée. Parlez-nous un petit peu de la nourriture, du genre de vie, et apparemment, il y a une surmortalité aussi des hommes due à un petit peu d'abus de l'alcool et du tabac. La joie de vivre, elle existe.
Oui, alors c'est ce qui m'avait d'ailleurs frappé, c'est que on voit des gens souriants ou qui rient, qui discutent, mais toujours dans une retenue très 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 marquée. Et c'est vrai que par rapport à ça, s'il y a un groupe de Chinois, on le repère tout de suite parce qu'eux parlent beaucoup plus fort et donc ils sont repérés immédiatement. Les Coréens ne se comportent pas de la même façon. Alors moi, j'ai toujours très très bien mangé, effectivement, en Corée du Nord. L'alcool, c'est... Enfin, moi, ce que j'ai vu, essentiellement, c'est la bière qui est utilisée. Alors c'est une nourriture aussi, oui, un petit peu épicée, du moins, par rapport au goût occidental. Et oui, moi, j'avais perçu une certaine joie de vivre que l'on percevait bien, notamment dans les travaux collectifs, puisque les Nord-Coréens ont des obligations, je pense, d'effectuer des travaux collectifs. Et quelquefois, on voit sur le bord des routes des milliers de gens qui arrangent les bas-côtés des routes, qui coupent de l'herbe avec des cisailles, y compris sur des terrains de football, qui sont tendus à la cisaille par des dizaines et des dizaines de personnes. Mais lorsqu'ils font ça, ils communiquent en même temps, ils rient, ils échangent. Voilà, moi j'avais trouvé une joie de vivre, et aussi, parce qu'il y a beaucoup à Pyongyang d'air de jeu pour les enfants. Donc ils jouent comme ça, et puis à côté il y a bien sûr les mères de famille ou les pères de famille qui discutent entre eux. Donc une très grande communication entre les gens, une très grande convivialité. Moi, c'est du moins l'impression que j'en ai retirée.
Est-ce qu'il y a un écart apparent des genres de vie, des niveaux de vie entre cette capitale de Pyongyang, qui, rappelons-le, dépasse les 3 millions d'habitants aujourd'hui, et puis le reste du pays? Est-ce que vous avez pu apercevoir de la campagne?
Oui, alors c'est quand même assez manifeste, même si je ne suis pas retourné à la campagne depuis 2012, mais à l'époque c'était assez net entre la ville, effectivement, entre Pyongyang, la capitale, et la montagne, où lorsqu'on voyait des gens travailler dans les champs, on remarquait quand même une certaine précarité de ces situations-là, alors que dans Pyongyang, où ce sont essentiellement des emplois de bureaux, on percevait tout de suite un niveau de vie qui était quand même supérieur.
Le temps passe trop vite pour qu'on aborde tous ces problèmes passionnants. Est-ce que ce qui est en train de se passer, à savoir cette détente qui paraît se confirmer, qui a fait suite aux menaces tonitruantes du président Trump contre la Corée du Nord, le régime de Corée du Nord, cette visite du dirigeant de Corée du Sud récente, la visite programmée de Kim Jong-un en Corée du Sud avant la fin de l'année, est-ce que tout ça vous paraît de bon augure et vous paraît esquisser un rapprochement qui pourrait aboutir à une réunification de la péninsule?
Alors effectivement, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'en Corée du Nord, la notion de réunification est très présente, enfin, du moins officiellement, hein, et elle est prônée à tout va. Alors effectivement, depuis quelques mois, on va dire, il y a des évolutions très significatives dans les rapports déjà entre les deux Corées, facilitées aussi par un changement de régime politique en Corée du Sud, puisque la présidente Park Geun-hye, qui était à la tête d'un régime très autoritaire, qui est aujourd'hui d'ailleurs incarcéré, a cédé la place donc à ce qu'on pourrait appeler des démocrates, quoi, qui sont plus favorables à des modérés, plus favorables à un rapprochement entre les deux Corées. Donc ça, on assiste effectivement à ce mouvement. Ensuite, avec les États-Unis, aussi, moi je pense que la Corée du Nord a pu commencer à discuter avec les États-Unis à partir du moment où leur missile était en capacité d'atteindre une ville américaine, et donc ça leur donnait une crédibilité qu'ils n'avaient pas précédemment. Alors, il est très difficile de savoir comment Donald Trump réagit à tout ça, puisque c'est un personnage un petit peu particulier. On dit beaucoup, notamment dans les milieux que je fréquente par rapport à la Corée, que Trump vise surtout le prix Nobel de la paix, et que c'est pour ça qu'il continue à avoir des relations avec la Corée du Nord, lesquelles sont un petit peu au point mort quand même. Hein, parce que...
De toute façon, les États-Unis sont derrière toutes les tractations qui peuvent exister entre ces deux pays, et surtout du côté de la Corée du Sud, étant donné qu'ils n'ont jamais cessé d'y avoir une présence militaire de plusieurs dizaines de milliers de soldats depuis que la zone démilitarisée a été créée à la suite de la guerre de Corée.
Effectivement, hein, les Américains, les États-Unis sont très très présents sur le territoire sud-coréen. Voilà, ce qui fait dire quelquefois... Ce qui faisait dire, je le mets à l'imparfait, ce qui faisait dire aux Nord-Coréens que la Corée du Sud était un État fantoche, peuplé d'Américains, voilà, avec il faut le dire aussi, je crois, des exercices militaires annuels, conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui irritaient particulièrement les Nord-Coréens.
Qui étaient autre chose que des menaces... déguisé. Alain, est-ce que vous pourriez, pour conclure, conseiller aux amateurs de l'Asie, qui seraient curieux de visiter la Corée du Nord, de s'informer auprès d'ouvrages que vous pourriez nous recommander?
Oui, tout à fait. Alors d'abord, moi, je ne peux pas me permettre de donner des conseils, mais enfin, je pense qu'il est intéressant d'aller visiter ce pays, chacun gardant bien évidemment ses opinions par la suite. Et si on veut en savoir un petit peu plus sur la Corée du Nord, moi je conseillerais deux ouvrages. Le premier, écrit par Benoît Quenedé, avec qui j'ai fait le dernier voyage, qui est président de l'Association d'amitié franco-coréenne, ouvrage qui s'intitule « La Corée du Nord, cet inconnu » et qui est publié chez Delga. Et puis un ouvrage de Juliette Morillo, journaliste, grande spécialiste de la Corée, qui parle couramment le coréen, qui se rend très fréquemment en République populaire démocratique de Corée, qui a écrit donc avec Dorian Malovitch, qui est le responsable Asie au journal La Croix, et qui ont écrit « La Corée du Nord en 100 questions » dans la collection Texto. Donc ces deux ouvrages permettent d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance de la Corée du Nord. Voilà, je répète, chacun évidemment pouvant se faire une opinion selon ses convictions, bien évidemment.
Alain, merci beaucoup et j'espère vous revoir au retour de votre prochain voyage.
Alors, y aura-t-il un prochain voyage? Je ne sais pas, peut-être bien, oui. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour parler de ce si mystérieux pays.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Oh.